Sortis de notre imagination, les dieux n'ont pas besoin de mourir puisqu'ils n'ont jamais existé. Mais il faut continuer de croire en eux car ils nous aident à croire en nous. Le poète et écrivain Gérard Massé est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dernier livre intitulé « Et je vous offre le néant ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, eh bien avec « Fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal ».
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bim.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise.
Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
Vous souvenez-vous, Gérard Massé, de l'endroit où vous avez pour la première fois embrassé une fille sur la bouche?
Ah oui, très bien. Oui. C'était en forêt. J'avais des grands-parents maternels au nord de Paris, à 25 kilomètres de Paris, dans une forêt proche, donc au-delà de Saint-Leu en forêt, entre Saint-Leu et l'Isle-Adam, vous voyez. Bon. Et mon grand-père, ce sont des souvenirs tout à fait merveilleux pour moi, qui ont vraiment modelé ma sensibilité. Mon grand-père était bûcheron et je l'accompagnais souvent dans la journée. Voilà. Et puis, il y avait, dans les dernières maisons, au bord de la forêt, une mère et ses filles, et on était quelques garnements sages, à vrai dire. Mais elle est fréquentée, voilà. Mais il fallait se cacher un peu. Donc la forêt, c'était le lieu idéal.
Que vous a appris votre grand-mère, qui était illettrée?
Ma grand-mère, elle m'a appris que beaucoup de choses. D'abord que le langage pouvait être extraordinairement savoureux. Je tiens d'elle une oralité, vous voyez, que je crois cultiver en écrivant. Mais ça, c'est sans doute du fantasme, enfin, c'est sans doute une illusion. Mais peut-être qu'il reste tout de même quelque chose de ce rythme, de cette syntaxe plus associative que démonstrative, vous voyez, que ce goût des sonorités. Qui plus est, cette grand-mère avait une extraordinaire liberté de langage d'abord. Elle employait des gros mots, veux-tu, en voilà. Elle employait aussi des expressions que j'ai comprises longtemps après, comme par exemple la castapiane. Quand on avait un mal un peu indéfini, vous voyez, une grippe bizarre ou je ne sais quoi d'autre, c'est la castapiane. Mais j'ai trouvé dans Littré, donc très tardivement, après. Je crois bien qu'elle était morte même, que la Castapiane, c'était la chaude pisse en argot militaire, vous voyez. Bon, voilà. Et donc, elle était très verte, en tout cas dans le langage, et dans les questions aussi. J'étais souvent chez elle, enfin chez mes grands-parents, avec un cousin du même âge que moi. Elle nous demandait volontiers où on en était sur le plan de l'éveil de la sexualité, vous voyez. Bon, voilà, par exemple. Et elle avait un corps qui m'a beaucoup influencé aussi, parce que elle était assez bien portante, et elle avait une jambe raide, parce qu'elle était tombée d'une charrette. Elle était ouvrière agricole, hein, tombée d'une charrette, elle s'était fracassée le genou, et non soignée, hein, et elle avait une jambe raide. Et ça lui faisait comme ça une espèce de démarche assez extraite. Elle pissait debout aussi. Voilà. Bon, voilà. Voilà la grand-mère.
À partir de quand avez-vous décidé de prendre les mots au sérieux, Gérard Massé?
Ah, depuis toujours.
Depuis tout petit.
Oui.
Grâce à la grand-mère.
Alors, sans
l'école
doute.
L'école aussi.
Oui, ah oui, l'école, ça a été extrêmement important, parce que, j'étais dans une famille où personne n'avait fait d'études. Je dirais même pas ce qu'on appelait le certificat d'études, qui était le minimum à l'époque. Voilà. Mes parents en souffraient beaucoup, d'ailleurs. Vraiment, ils avaient une sorte de frustration chez eux, qui m'a poussé à faire autrement qu'eux.
Bon. Il n'y avait pas de livres à la maison.
Non, il y en avait. Alors, il y avait 3 livres chez mes parents. Ça, je m'en souviens extrêmement bien. Il y avait un livre sur Louison Bobet, parce que mon père était amateur de cyclisme. Il y avait un livre de Maurice Thorez, qu'il n'avait pas dû écrire lui-même, mais ça, c'était le côté ouvrier. Bon, et puis un Larousse, le dictionnaire. Et je dois dire que j'ai passé beaucoup plus de temps dans le Larousse que dans les 2 autres ouvrages. Et ce Larousse, il était plein d'illustrations en noir et blanc. Il avait des pages roses avec du latin. Je croyais d'ailleurs que ces pages roses étaient beaucoup plus licencieuses qu'elles ne l'étaient. Enfin, je comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. Mais l'école a joué donc un rôle extraordinaire. Parce que, à partir du moment où on m'a appris à lire et à écrire, bon, j'ai tendance à ajouter aujourd'hui que je n'ai fait que ça de ma vie. Oui, ça m'a suffi. Voilà. La relation au monde en a été changée aussi. Et c'est en écrivant, autrement, je ne l'aurais jamais su. C'est en écrivant qu'on se découvre, parce que si on écrit poétiquement, c'est-à-dire pas forcément des poèmes, mais poétiquement, c'est-à-dire en découvrant ce qu'on avait à dire. Voilà. À ce moment-là, on apprend énormément de choses qui ont été importantes à notre insu. Et j'ai découvert, par exemple, que la relation à l'écrit m'avait fait quitter un monde, le monde de l'oralité, le monde, populaire, mais pour entrer dans autre chose. Et autre chose qui ne m'a pas fait souffrir du tout, au contraire, qui était une merveille. Cette autre relation au monde a été une séparation, je vous dis ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, une séparation, mais une séparation féconde. Voilà.
Oui, mais en même temps, dans certains de vos textes, Gérard Massé, vous nous dites avec beaucoup de pudeur, de modestie, mais aussi d'instinct de vérité, que d'avoir quitté votre classe populaire pour devenir un lettré,
oui,
puisque vous avez été enseignant,
oui,
vous
oui,
êtes auteur de très nombreux textes, vous êtes passé du côté de la classe entre guillemets dominante, comme on disait dans les années 80.
Du point de vue du savoir, il n'y a pas de doute.
Du point de vue du savoir, et que donc cette
j'essaie de ne pas en abuser.
Oui, du savoir.
Oui, non, du pouvoir.
Ou de la domination.
Oui, oui.
Et donc vous avez expliqué, grâce à la poésie de vos mots et au choix du rythme de vos phrases, à quel point cela vous avait posé problème. Et d'ailleurs, je peux le dire, en tant que lectrice, je ne suis pas la seule, en tant que lectrice de vos œuvres, vous ne trahissez pas votre classe sociale quand vous écrivez. Vous êtes toujours...
Merci de me le dire.
Le gamin ouvrier ayant vécu...
Ou qui courait les bois, avec les, comme je l'ai dit. De l'autre côté, mes origines sont bretonnes. Alors, ma grand-mère, là, était au contraire extrêmement pudibonde et réservée. Enfin, bon, bien, passons. Mais bon, j'espère que je n'ai pas trahi, en effet. C'est-à-dire que...
Vous dites que vous avez quitté un monde en écrivant. Quel monde avez-vous quitté, selon vous?
Peut-être. Alors, un monde que j'essaie de retrouver en écrivant, donc c'est ma façon d'y être fidèle, parce qu'il m'a apporté beaucoup de richesses, c'est peut-être le monde des sensations. Voilà. Et ce monde des sensations, quand on passe au langage et qu'on essaie de le dire, là, on entre dans un labyrinthe. Il suffit pas, contrairement à ce que certains pensent, de décrire ce qu'on a vécu ou ce qui nous est passé par la tête dans l'immédiateté pour que ça donne quelque chose d'intéressant. D'intéressant pour soi, non, puisqu'on sait déjà ce qu'on avait à dire. Et pour les autres, encore moins.
Donc l'écriture, c'est partir dans l'inconnu de soi-même.
Oui, absolument. Et chaque livre, je crois, m'a apporté une découverte. Oui. Et on se construit ainsi. Alors on se construit non pas dans je ne sais quelle vérité, qui serait d'ailleurs... dont qui serait garanti par quoi? Je n'en sais strictement rien. À partir du moment où je ne suis pas croyant, ou je ne suis pas, mon monde n'est pas coiffé par une instance suprême, que ce soit Dieu ou la psychanalyse, vous voyez, bon, à partir de là, je ne cherche pas à être fidèle à je ne sais quelle vérité, mais à essayer de voir comment chaque livre m'emmène là où je ne savais pas que j'irais. Je dis quelquefois, je peux le répéter ici, je crois que si même un romancier avait le plan détaillé de son roman à l'avance, il ne l'écrirait pas, puisque ce serait un boulot fastidieux, ce serait une corvée, ça lui apporterait rien.
Il y a beaucoup de secrets dans votre univers, Gérard Massé. Il y a beaucoup de déchiffrements.
Oui.
Il y a beaucoup de désir de retrouver des vérités enfouies depuis très longtemps. Or, vous-même, dans votre propre généalogie familiale, vous avez connu des secrets de famille assez tardivement. Massé, c'est votre nom. Votre père était un bâtard et ne vous l'a jamais dit. Comment l'avez-vous appris?
Oui. Je savais pas que j'avais dit tout ça aussi clairement.
Non, j'ai cru comprendre.
C'est que vous lisez
bien.
Oui.
Je suis pas sûr.
Tout ça est juste.
J'ai compris à travers.
Tout
parce qu'effectivement, il faut déchiffrer.
Oui, parce que je ne peux pas le dire en clair.
C'est des chemins.
Tant que mes parents étaient vivants, j'aurais eu beaucoup trop de scrupules à le dire en clair, dans la mesure où j'aurais trahi quelque chose de la pudeur de mon père à ce propos. Et puis, depuis, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir, en effet, où ça m'a emmené par ricochet et par transposition. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je m'intéresse aux hiéroglyphes égyptiens, je me dis, ah oui, c'est parce que on revient à l'école, à l'apprentissage de l'écriture, etc. Mais c'est aussi la découverte, l'histoire de la découverte d'un secret ou d'une chose perdue. Alors, pour les auditeurs, il faudrait peut-être être plus clair. L'histoire est très simple, elle est d'ailleurs... Elle s'est répétée souvent. Ma grand-mère bretonne, dont je parlais tout à l'heure, a eu un enfant, mon père, c'était l'aîné, avec quelqu'un dont je crois il savait qui c'était, mais je ne suis même pas certain. Bon. Il n'en parlait pas. Cette femme a eu un deuxième enfant, mais d'un autre père. Puis un troisième homme dans sa vie qui s'est appelé Massé et qui a reconnu les deux autres enfants. Voilà l'histoire très claire et très simple. Très simple une fois qu'on la connaît. Sauf que, puisque vous parlez de secret, ce qui est très intéressant dans une cellule familiale comme ça, c'est ce qui, vous voyez, vibre, ce qu'on perçoit, sans que ce soit dit.
Non, perçant, c'est un mot valise qui est intéressant
oui,
en ce qui
fait.
Concerne votre écriture.
Oui,
parce qu'on perçoit la sensation en vous lisant.
Oui, puis ça ramène au monde de Proust aussi, l'univers. Bon. Et donc, je percevais un secret, mais si on perçoit le contenu du secret, ça n'est plus un secret. Donc le secret, il s'évapore aussitôt qu'il est dit. Bon. Et alors vous me demandiez comment j'ai su. Alors petit à petit, on a un peu la puce à l'oreille. J'ai longtemps cru, par exemple, que le frère de mon père, le second, était du même père, ce qui n'était pas vrai. Et puis il a fallu que je rencontre celle qui est toujours mon épouse. Que j'appelle parfois en m'amusant ma première épouse, mais il n'y en a pas d'autre. Et il a fallu que je l'amène à la maison pour que mon père raconte, mais à elle, en s'adressant à elle, et pas à moi. Mais évidemment, c'était pour que je sache.
Je vous propose d'écouter la voix de Georges Perec, qui va lire un extrait de son texte « Je me souviens ».
Ah. Je me souviens des Scooby-Doo. Je me souviens de Dop Dop Dop, adopter le shampoing Dop. Je me souviens d'une opérette dans laquelle jouaient les frères Jacques et Irène Hilda, Jacques Pils, Armand Mestral et Maryse Martin. Il y en eut une autre, des années plus tard, également avec les frères Jacques, qui s'appelait La Belle Arabelle. C'est peut-être dans celle-là et pas dans la première qu'il y avait Armand Mestral. Je me souviens de l'époque où il fallait plusieurs mois et jusqu'à plus d'une année d'attente pour avoir une nouvelle voiture. Je me souviens des rubriques « Vrai ou faux », « Le saviez-vous », « Incroyable mais vrai » dans les journaux d'enfants. Je me souviens de Jean Bretonnière quand il chantait « Toi, ma petite folie ». Je me souviens des attractions qu'il y avait au Gaumont Palace. Je me souviens aussi du Gaumont Palace. Je me souviens du mal qu'ils ont eu à creuser les fondations du drugstore Saint-Germain. Je me souviens du bonhomme en bois des galeries Barbès. Je me souviens de la minute de Saint-Granier. Je me souviens que la petite hutte a été jouée pendant plusieurs années et que cela constituait un record absolu. Je me souviens que Fleur de Cactus aussi a tenu très longtemps et que cela a permis à Sophie Desmarais de s'acheter un magasin d'antiquités dans le passage Choiseul qu'elle a appelé Cactus Bazar. Je me souviens de la mode des Duffelcoat.
Voilà, nous venons d'entendre cette merveilleuse archive au cours de laquelle donc Georges Perec énonce une partie de son texte ô combien célèbre intitulé « Je me souviens ». Et vous, dans un de vos ouvrages, Gérard Massé, vous dites « Eh ben moi, je me souviens pas de grand-chose ». Et vous avez toute une théorie sur la fausse mémoire, les souvenirs écrans, ce qu'on se fabrique de ce qu'on croit avoir vécu, mais qui n'est pas le reflet de la réalité.
Oui, c'est ça. Je crois que ça tient à une expérience personnelle, enfin, expérience vécue, bon, d'une part, et en essayant de ne pas se la raconter, c'est-à-dire que en essayant d'être finement à l'écoute de ce qui se passe en nous. Mais bon, et puis j'ai lu Proust. Voilà. Donc je fais la distinction entre le souvenir et la mémoire. Le souvenir qui est là à l'état clair, tout prêt à servir. Voilà. Et puis ce qu'il faut retrouver, ce qui est enfoui et ce qui redevient du même coup beaucoup plus vivant. Quand je parle de mon passé, c'est au présent. Voilà, j'espère que la formule n'est pas trop alambiquée. Enfin non, elle ne l'est pas, tout le monde comprend. Voilà, c'est toujours au présent. Et donc,
même si vous avez l'impression de vivre dans l'intensité de ce même présent et dans l'instantanéité de ce présent.
Ah oui, ça n'empêche pas. Oui, ah oui, je n'ai pas de, comment vous dire, de nostalgie, ça m'arrive d'en avoir, comme tout le monde, mais pas du tout de désir de retourner en arrière, vous voyez. Je sais qu'il faut épouser le temps, qu'il faut suivre son cours, qu'autrement on est vaincu d'avance d'abord. Et ensuite, politiquement même, il m'arrive de penser que je peux être conservateur comme tout le monde, parce qu'on n'aime pas que tout change tout le temps. Mais je ne peux pas être réactionnaire au sens propre du mot. Parce que ça n'était pas mieux avant, ça n'était pas ceci ou cela. Enfin, c'est hors de mes catégories. Voilà. Voilà, je suis dans le présent et en même temps, ce présent, il n'est pas que un instant vide et qui fuit aussitôt. Il est constitué de toutes les couches successives de ce qui. Nous sommes en pleure d'oignon. Ça me fait penser d'ailleurs que Balzac croyait que la photographie allait nous voler une couche à chaque fois qu'on était pris en photo et qu'on était structuré comme un oignon.
Ouais. Alors, vous êtes photographe aussi. Vous avez fait des livres sur Balzac, mais sur Baudelaire, parlons-en, puisque Baudelaire lui aussi était photographe. Et vous dites que la pratique de la photographie, c'est une pratique de l'instantanéité, justement, de ce présent que vous venez d'évoquer, mais qu'en même temps, elle n'a pas besoin de commentaires, comme si ce qui s'offre à nous, aussi bien dans une rencontre, aussi bien dans l'admiration d'un paysage ou d'une lumière, eh bien justement, là, est possible à admirer sans écran.
Il y a des foules de façons de pratiquer la photographie, surtout.
Mais je parle de la vôtre.
Hein, voilà, bon. Donc, la mienne, elle est venue très tardivement, d'abord la pratique, à 50 ans. Bon. J'en ai 73 maintenant. Mais à 50 ans, on m'a offert un appareil photo comme un gamin, mais c'était un complot de femmes, qui me sentait mûr pour passer à l'acte, si j'ose dire. Bon. Alors, une fois que j'ai eu cet appareil entre les mains, il a bien fallu que je m'en serve. Et puis, j'avais envie, au fond. Pourquoi est-ce que j'avais envie? D'abord, la photo m'intéressait depuis très très longtemps. J'en achetais. À un moment où le marché n'était pas très établi. Je connaissais quelques photographes, j'ai eu une grande amitié avec Henri Cartier-Bresson, par exemple. Bon. Et avec qui je parlais pas de photo d'ailleurs. Bon, mais enfin, on en parlait quand même à travers d'autres expériences. Au fond, j'étais un peu là de l'écriture. Voilà. Michaud raconte ça très très bien à propos du passage à la peinture. C'est-à-dire que le verbal, tout à coup, vous fatigue. Et on a l'impression aussi de, pardon de dire ça devant un micro et devant vous, mais voilà, on a l'impression aussi que on va répéter tout le temps les mêmes choses, même, et qu'en écrivant, si vous voulez, le sillon est déjà tracé. Voilà, on peut éprouver cette impression. Alors dans ce cas, il faut faire un pas de côté. Alors la danse acrobatique, ça, c'était pas possible pour moi. Bon, ou la physique nucléaire. Bon, donc il faut bien trouver quelque chose qu'on peut réellement pratiquer. Alors avec cet appareil photo, d'abord je suis sorti. J'ai voyagé davantage aussi. Bref, j'ai été dans le monde un peu plus qu'en écrivant. Et puis j'ai interrompu un peu ce monologue intérieur qui parfois vous fait tourner en rond. Voilà. Donc ça a été ça d'abord, la photographie. Et puis, ça a satisfait autre chose, c'est mon goût de l'esthétique. J'aime beaucoup la peinture, j'en ai regardé depuis toujours. J'aime cadrer, j'aime voir comment c'est structuré. Et puis, j'aime aussi parfois le document que ça constitue. Mais avant tout, l'espèce de réussite, alors dans la photographie, de réussite en effet instantanée, il y a des échecs aussi, on ne parle que de ce qui a marché, de réussite instantanée, en un fragment de seconde, il faut voir la structure, l'architecture, la composition, les intensités de lumière, quand c'est en noir et blanc, il faut voir les contrastes, etc., la position juste d'un personnage ou pas, quand le sujet est mouvant, et tout ça, c'est passionnant. Voilà. Et je dois dire que, très naïvement, quand j'ai vu les premières photos que j'avais prises, je me suis dit, ah, c'est les miennes. Oui. Voilà. Vous me disiez que vous vouliez que je parle de ma photo et pas de celle des autres. Eh bien, là, tout à coup, je me disais, ah, c'est moi qui ai pris ça. Oui. Oui. C'est très, très étonnant.
Alors, les pas de côté, vous savez les pratiquer à la perfection, presque, Gérard Massé, parce qu'il y en a plusieurs dans votre itinéraire. Vous êtes aussi traducteur, notamment traducteur de Dante, c'est pas rien, mais aussi de philosophes comme Giorgio Agamben et bien d'autres, de grands écrivains aussi italiens, et vous êtes aussi poète. Vous pratiquez de la poésie contemporaine, ce n'est pas très à la mode, et pourtant, qu'est-ce que c'est bien? Vous avez eu des ancêtres qui célébraient, comme vous, la sensualité et la beauté du monde. Je vous propose d'écouter Francis Ponge.
Ah. Où est-ce que je place la poésie? Eh bien, comme je l'entends, il est possible qu'elle se trouve ailleurs que dans les recueils poétiques, peut-être dans certains textes plus modestes ou plus acharnés, enfin, dans des textes de recherche, peut-être. Et, alors, qu'est-ce qui distingue les poètes? C'est qu'évidemment, leur moyen d'expression est spécial, il s'agit des mots. Alors je crois aussi, et je le crois pour tous les arts, qu'il est impossible de faire quoi que ce soit de valable si l'on n'est pas aussi sensible à son moyen d'expression qu'au monde extérieur, c'est-à-dire qu'à l'objet de votre émotion. C'est-à-dire qu'il faut considérer, quant à un écrivain ou à un poète, le monde verbal, le monde des mots, n'est-ce pas, si vous voulez le dictionnaire, comme un monde extérieur aussi, enfin quelque chose d'épais, comme une matière à modeler, comme une chose qui était émouvante aussi par elle-même. Alors, je pense que si l'on est doué de ces deux sensibilités et d'un désir violent d'expression, bien sûr, ça c'est le tempérament et ça ne se commande pas, eh bien, on est peut-être capable de faire œuvre valable, puisqu'il s'agit qu'à l'intérieur du monde des mots, votre texte existe comme les objets extérieurs existent dans le monde extérieur.
Nous venons d'entendre la voix de Francis Ponge. J'ai l'impression, en lisant certains de vos poèmes, Gérard Massé, que vous pouvez vous revendiquer de cette filiation poétique, c'est-à-dire de la poésie comme simplicité, approche et respiration.
Oui, avec
de l'intérieur du monde, par les mots qui sont vos instruments.
Les mots qui ont une présence, une histoire. Ponge était à sa manière philologue, il adorait l'étymologie aussi. Et je crois que tout poète fait très attention à tout cela. Bon. Ce qu'il y a chez Ponge aussi, c'est cette espèce de balance tout à fait exacte entre les mots et les choses. Ce qu'il appelait le parti pris des choses, titre de son recueil le plus célèbre, qui est de 1942, si j'ai bonne mémoire, et le contenu des mots. Voilà. Et il y a un moment où l'un et l'autre peuvent se croiser, se rencontrer, avec rien de trop, mais rien qui manque. Ben, ça, c'est l'idéal, c'est le but. Mais Ponge y est arrivé un certain nombre de fois. Oui, et ce sont des textes en prose, et en même temps, il m'est arrivé de savoir par cœur du Francis Ponge sans l'avoir appris. Tellement la formule est trouvée. Or, par exemple, moi je travaille beaucoup oralement, dans ma tête, comme disent les enfants. C'est-à-dire que je travaille peu avec, je n'ai plus de manuscrit d'ailleurs, jusqu'à ce que la phrase puisse être mémorisée. Alors, Ponge travaillait, j'ai vu des brouillons, et je l'ai connu en plus, Francis Ponge, enfin j'ai eu cette joie. Et il avait des brouillons, il travaillait manuscritement, mais il travaillait beaucoup aussi à l'oreille. Et les deux à la fois, c'est deux bouts qu'il faut tenir. De même que dans l'histoire de la poésie, il le dit dans Pour un Malherbe, il faut au fond être l'héritier de Lautréamont et de Malherbe. Il dit Malherbe qui était une corde tendue et Lautréamont qui a fait sauter toutes les cordes. Voilà. Et voilà. Ou Rimbaud et Mallarmé, si vous voulez, pour prendre des gens plus proches dans la chronologie. En tout cas, il y a chez Francis Ponge ce qui m'a attiré vers lui quand j'avais, je sais pas, 21, 22 ans, c'était aussi un métier. Alors la poésie ne peut pas se résumer à un métier, il le dit très bien, le désir violent de l'expression, c'est une question de tempérament et ça ne s'invente pas. Bon, très bien. Mais si on n'a pas ce minimum de métier, alors on est dans la poésie ou vaguement sentimentale, ou qui se contente de quelques mots sur la page, qui correspond à un désir un peu infantile d'expression. Sinon, la poésie ne doit pas être compliquée, mais elle doit être élaborée. C'est pas la même chose.
Alors, je ne sais pas si vous considérez Mouloudji comme un poète, mais c'est le choix musical que vous avez fait, le jeune Mouloudji, avec cette chanson intitulée « Les petits pavés ». Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix de Gérard Massé.
Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé deux petits pavés sur tes carreaux que j'ai crevés, mais tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois. Tu te moques de tout, je crois. Demain je t'en lancerai trois par devant ta porte cochère, pour faire tomber tes amis. Trois et quatre pavés gemis, j'exècre tes amis, ma chère. Demain je recommencerai, demain je recommencerai, et tes amants je les tuerai si tu ne changes pas d'allure. J'écraserai tes yeux, ton front, entre deux pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Je t'aime, t'aime bien pourtant. Je t'aime, t'aime bien pourtant. Mais tu m'en as fait tant et tant. Les gendarmes en cavalcade viendront m'arrêter après ce coup pour me mettre la corde au cou. Je me construis ma barricade et sur ces pavés je mettrai, et sur ces pavés je mettrai mon cœur durci par le regret. Autant de pavés par le monde. de grands et de petits pavés, autant de chagrins enclavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela, je meurs de tout cela. Ma chanson s'arrête là.
Merci pour ce choix, Gérard Massé. Ah, mais
j'aime beaucoup la chanson.
C'est un poème.
C'est une version populaire de la poésie, oui, bien sûr. La chanson de cette époque, en tout cas, vous constatez que mes goûts datent un peu. Mais c'est vrai qu'il y a eu dans les années, au fond, la fin des années 50, 60, 70, comme ça, une espèce de floraison extraordinaire dans la chanson française. Il m'arrive quelquefois de penser que j'écrirais volontiers quelque chose sur ce sujet, mais c'est pas venu encore. Voilà.
Sur la chanson.
Oui, pourquoi pas.
On attend, mais j'ai l'impression que pour vous, le mot poème inclut aussi bien des notations sur la beauté du monde, quand vous marchez, car vous êtes un grand marcheur, quand vous marchez dans les villes ou que vous partez à l'autre bout du monde, ça peut aussi intégrer l'idée du haïku, l'idée d'une méditation taoïste.
Mais aussi, oui, il y a ça, il y a cet aspect. Puis il y a aussi la pénétration d'un monde que je ne connais pas. Par exemple, les jardins de Kyoto sur lesquels j'ai fini par écrire, ou les chefferies Bamileke au Cameroun.
Alors justement, racontez-nous ce qui vous est arrivé avec le chef Bamileke qui vous a accepté. Cours de son intronisation.
En fait, il y a plusieurs
chefs. Vous étiez le seul blanc.
Oui, il y a plusieurs chefs en pays Bamileke, parce que les chefferies sont au nombre à peu près d'une centaine. Si j'ai voulu y aller d'abord, c'est que j'avais ce projet depuis un certain temps, après un premier voyage au Cameroun, sans but précis. C'est parce que c'est un monde traditionnel, mais qui n'est pas figé, qui n'est même pas classé par l'UNESCO, ça le protège au fond, d'une certaine manière en tout cas. Et puis, c'est dans un pays actif économiquement, c'est l'ouest du Cameroun, à la frontière du Nigeria, et où les gosses vont au lycée, etc. Enfin, vous voyez, qu'on ne se représente pas, je ne sais quel monde archaïque, c'est pas du tout ça. Alors, ce monde m'intéressait pour ces raisons. Et puis, il se trouve qu'un Camerounais passant chez moi un beau jour, ou un beau soir plutôt, m'a dit « le roi de Balingue est mort ». Je ne savais pas qui était ce roi de Balingue. Balingue est le nom d'un village. Et il m'a dit « moi j'ai 40 ans et il était depuis 40 ans, il régnait depuis 40 ans et donc je n'ai jamais assisté à des funérailles. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être là bientôt ». Et puis le lendemain, avec mon épouse, on s'est dit « mais pourquoi on n'irait pas ?» Voilà. Alors on est allé là-bas et on a assisté en effet aux funérailles, qui n'est pas l'enterrement, qui a lieu dans la forêt sacrée, enfin ça personne n'y assiste. Mais aux funérailles, j'ai été admis à prendre des photos en effet, puis après, 2 mois après on est revenu parce que le successeur qui est attrapé, c'est le terme en usage, le successeur qui est attrapé, qui est d'ailleurs ingénieur des mines, est un fils du chef défunt, il est emmené dans une case pour l'initiation. Initiation à la fois symbolique, religieuse et aussi pratique, parce que le chef local s'occupe de l'adduction d'eau, pourquoi pas. Bon, et donc on y est retourné, et là on a eu très bon contact, très bien. Et puis, un an après, il m'a invité aux premières initiations des jeunes de son règne. Et ça a été un moment tout à fait extraordinaire parce qu'on était fort bien accueillis par les notables, par lui aussi. Et c'est quelqu'un de remarquable. Je ne suis pas retourné depuis parce que l'Afrique devient difficile. Il y a des endroits un peu risqués. Enfin bon, c'est pas si commode. Il y a un nombre d'endroits en Afrique où je ne pourrais plus aller.
En tout cas, vous avez beaucoup voyagé, Gérard Massé, dans des cultures, des civilisations extrêmement différentes. Vous en avez rapporté des notes, car c'est la discontinuité, le fragment qui vous intéresse pour dire votre rapport au monde. Et vous avez, mine de rien, élaboré une sorte de chemin littéraire que vous avez inventé et que vous avez inauguré. J'ai devant moi un gros livre qui s'appelle « Colportage », une nouvelle édition revue augmentée qui a été publiée il y a très peu de temps chez Gallimard. Ce livre fait beaucoup de pages.
Mais oui, j'ai été étonné, figurez-vous.
Oui, mais c'est cette notion de colportage qui est très intéressante parce que un peu comme Michel Léris, qui avait décidé de faire de sa vie finalement une série de carnets d'autobiographie. Eh bien, vous êtes un voyageur, mais ce mot colportage acquiert une dimension de ramasser des cailloux, se promener le nez en l'air, ne pas attendre quoi que ce soit pour être étonné par ce qu'on voit.
J'aime bien d'abord relever des mots qui sont communs ou tombés dans le ruisseau, si vous voulez, et leur donner un peu des lettres de noblesse, bon, d'une part. Et d'autre part, la figure de colporteur m'intéressait parce que elle allie, vous avez compris, j'imagine, à la fois la culture populaire et la culture savante. C'est lui qui apportait des livres dans les villages, qui donnait à lire et qui en même temps apportait l'almanach, mais aussi des rubans, de la dentelle, ou des, vous voyez, bon, voilà. Et ça rassemble un peu tous mes goûts. Je voudrais juste compléter, puisque m'en avait donné l'occasion tout à l'heure à propos de la poésie. J'admire beaucoup au XXe siècle la prose des poètes et on n'y fait pas assez attention. C'est-à-dire que dans l'esprit commun, au fond, la prose c'est le domaine des romanciers, puis le poème, bon, c'est plus très bien éventuellement, ou en tout cas c'est vertical. Bien. Or, il y a, tout spécialement au XXe siècle, mais ça commence avec Baudelaire, des essais de poètes qui sont tout à fait extraordinaires. Et je dois vous dire que je suis en train de rassembler pour une anthologie dont j'espère qu'elle pourra paraître chez Gallimard, justement des essais de poètes. Alors c'est Baudelaire et la photographie, c'est Léris, vous l'avez cité, avec la mission d'Akar Djibouti et d'autres textes ethnographiques. C'est Artaud et les Tarahumara ou le théâtre. Bon, mais la poésie, à partir du moment où la forme fixe, si vous voulez, n'est plus reconnaissable, ou à partir du moment où elle a sauté, se trouve ailleurs ou à côté, mais elle se trouve aussi dans une exigence du langage, une exigence du langage qui également doit renvoyer au monde. C'est pourquoi je pense les poètes se sont tellement attaché à des sujets divers comme ça. Et d'autre part, il y a une pensée des poètes, ça m'importe beaucoup, une pensée qui n'est pas la pensée des philosophes, qui n'est pas conceptuelle. Schelley dit ça très bien dans un texte que j'ai lu récemment. Il dit au fond, la raison sépare, individualise, pour qu'on puisse analyser une notion, et l'imagination associe, y compris des réalités lointaines. Et ça, c'est le rôle de la poésie.
Alors, vous êtes poète, traducteur, voyageur, marcheur, vous êtes écrivain, mais vous prenez les mots très au sérieux. Et les mots ont une pensée qui peut être autonome. Et grâce à vous et à vos écrits, Gérard Massé, nous sommes éveillés à ce que peuvent véhiculer comme signification certains mots. Je vais lire un très court extrait de votre avant-dernier livre qui s'intitule « Des livres mouillés par la mer, pensées simples numéro 3 », car vous êtes aussi l'auteur des pensées simples. Je vous lis. « Depuis que des émigrants se noient chaque jour dans la Méditerranée, par dizaines ou par centaines, le cimetière marin n'est plus le titre d'un poème de Valéry, tranquille et néoclassique, mais le nom d'une fosse marine où sombrent les espérances et les corps des gens qui cherchaient à échapper au pire. »
Oui, comment ignorer ce qui se passe autour de nous? Comment ne pas être rattrapé et de façon parfois brutale et avec un peu de culpabilité, nous le savons tous, quand on vit à Paris et en ce moment, parce qu'on est relativement protégé malgré les inquiétudes qu'on peut avoir. Donc oui, tout ça m'importe, bien entendu. Et c'est pas tant l'actualité qui m'intéresse que ce qui perdure dans le monde, ou ce dont on n'arrive pas à se débarrasser. Des fugitifs, des gens qui se réfugient, des gens persécutés. En Europe, on a connu ça au cours du XXe siècle, Dieu sait. Enfin non, Dieu ne sait pas. Et ça continue d'une autre manière. Et quand on s'intéresse un peu à l'Afrique, on y est particulièrement sensible. L'Afrique est un continent qu'on ne veut pas vraiment voir, qui est ignoré même dans son histoire alors qu'elle existe, etc. etc. Enfin, heureusement, ça progresse de ce côté-là. Il y a une chaire africaine, par exemple, qui vient d'être inaugurée au Collège de France. Ça, c'est très heureux.
Vous êtes aussi quelqu'un qui lisait, vous dites que, comme Julien Gracq, pour le paraphraser, en lisant, en écrivant, c'est peut-être la lecture qui vous a mené vers l'écriture, mais depuis plusieurs décennies, vous pratiquez le va-et-vient entre écriture et lecture, ce qui fait que nous avons droit à des livres exceptionnels sur des écrivains et des poètes. Le dernier qui vient de sortir, c'est bizarrement, dans votre itinéraire, c'est bizarrement un livre sur le divin marquis. Il s'intitule « Et je vous offre le néant ». Et bon, vous n'êtes pas le seul à réhabiliter l'œuvre de Sade, mais vous êtes le seul, je crois, à réussir à nous faire rire en nous parlant du divin marquis et en nous présentant un portrait qui ne ressemble pas aux clichés qui sont véhiculés sur le divin marquis. Je vous propose d'écouter la voix de Roland Barthes, qui connaissait très bien le marquis de Sade, et qui va parler du désir et de trois auteurs, Sade, Fourier et Loyola. C'est une archivina du 13 janvier 1972.
L'écriture est un excès. Ce sont donc dans des expériences excessives que l'on pourrait retrouver, sous une forme peut-être abusive ou délirante ou maniaque, ce qui existe en réalité mais qui serait diffus.
Exactement. Oui, je crois que le grand problème humain, n'est-ce pas, c'est l'homme se débat toujours avec son désir, c'est le fait anthropologique. Et par conséquent, son activité propre, c'est justement d'essayer de donner des figures extrêmement multiples, des visages très divers à ce désir en le déplaçant, mais sans le perdre jamais, en quelque sorte. Et c'est là que nos trois auteurs ont été, je crois, exemplaires.
Alors, dans Le Marquis de Sade, dont vous nous tracez un portrait assez généreux, je dirais, on l'imagine, hein, grâce à vous, Gérard Massé. On l'imagine physiquement, on l'imagine dans sa vie quotidienne, on l'imagine quand il est dans son château de Lacoste, on l'imagine évidemment après quand il sera emprisonné, d'abord à la prison de la Bastille, puis dans sa dernière prison.
Vincennes d'abord.
Absolument.
Vincennes, puis la Bastille.
Vincennes, la Bastille et le dernier.
Alors c'est l'hospice de Charenton.
L'hospice de Charenton.
Par, où la, d'ailleurs, par il vivait, la grâce de Napoléon.
Par la grâce de Napoléon, où il vivait, en tout cas moi je l'ai appris grâce à vous, Gérard Massé, où il vivait une vie absolument exceptionnelle parce qu'il donnait ses pièces de théâtre tous les soirs devant une assemblée extrêmement choisie. C'était une vie assez délicieuse.
Et il faisait jouer les aliénés aussi.
Et il faisait jouer les aliénés, mais surtout... Surtout, ce qui m'a étonné, Gérard Massé, c'est la raison pour laquelle vous dites que vous êtes intéressé au divin marquis. Vous dites que nous vivons une époque hyper moralisatrice, une époque où finalement l'autocensure sévit et où il faudrait réhabiliter, comme le vient de le dire Roland Barthes dans cet archive que nous venons d'entendre, l'excès, les écrivains de l'excès, de l'illimité.
Alors l'excès, où je me séparerai un petit peu de Roland Barthes, c'est que l'excès, à mes yeux, n'est pas une valeur en soi. Tout dépend ce qu'on en fait, quel est le propos, voilà. Mais il est vrai que une certaine pudibonderie aujourd'hui, je ne parle pas de l'actualité immédiate, évidemment. Une certaine pudibonderie et d'autre part des condamnations pour blasphème qu'on a revues en France, je pense, Salman Rushdie, ça n'était pas en France, mais enfin, bon, les caricatures de Mahomet, c'était en France, tout ça...
Et aujourd'hui, c'est le triste anniversaire des 5 ans de l'hypercachère et de Charlie Hebdo.
Pour moi, c'est tout à fait insupportable, étant donné notre histoire, notre culture et ce que nous voulons préserver, la majorité d'entre nous en tout cas. Voilà. Bon, alors, j'ai éprouvé ça, j'ai écrit ces lignes au printemps 2018. Donc, elles sont actuelles, mais pas directement actuelles. Bien. Et je me suis mis à lire Sade, dont j'avais toujours lu un peu quelque chose. Mais, si vous voulez, quand je lis Nerval, je suis chez moi, d'une certaine façon. Je suis dans une sympathie extrême avec l'auteur. Quand je lis Sade, ça n'est pas le cas. Mais j'ai voulu aller y voir, c'est-à-dire me confronter à cet univers, en effet, complètement excessif, maniaque, répétitif, souvent au point que, parfois, on peut sauter deux ou trois pages, insupportable à certains égards. Il y a des passages où j'ai pensé abandonner, en particulier à la fin des 120 journées de Sodome, c'est terrible. Bon. Mais, en même temps, j'ai été requis par quelque chose d'assez extraordinaire, évidemment. C'est d'une part un athéisme radical, bon, alors qu'on peut, certains s'amusent à le renverser comme une espèce de fascination de Dieu. Moi, je ne crois pas, parce qu'à ce compte-là, alors, on peut tout renverser en son contraire et défigurer la pensée de tout le monde. Bon, y a un athéisme radical. Sa première condamnation, c'est pour des faits qui concernent une femme, en effet, mais aussi pour blasphème. On oublie de l'ajouter. Il a été enfermé dans diverses conditions, mais souvent très dures, pendant 27 ans. Bref, il a payé. Il a été un romancier tout à fait hors du commun. Alors c'est évidemment ça qui m'intéresse. Et dans ses romans, dans cette imagination presque forcenée, il y a des choses que je ne soupçonnais pas avant de lire avec attention l'intégralité. Par exemple, il faut préciser que dans l'univers de Sade, tout le monde a droit au plaisir. Tout le monde même a droit à l'adultère et au divorce, y compris les femmes, par exemple. Alors, je ne vais pas en faire non plus un parangon de vertu ou d'apôtre de la liberté, quoi qu'il arrive, parce que le problème que pose Sade, justement, c'est ça qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est que faire à partir du moment où Dieu est mort, comme disait Nietzsche, où plus rien n'est garanti dans l'ordre moral, si c'est Dieu qui garantissait ce qui est encore à voir. À partir de ce moment-là, où beaucoup de choses sautent, et il a vécu la Révolution en y participant, il était dans la section des piques, où il a joué un rôle d'ailleurs tout à fait intéressant. Bien, c'était pendant ses années de liberté. À partir de ce moment-là, que faire avec, comme disait Barthes, le désir de chacun? Ce désir qui peut être une pulsion même, irraisonnée, non contrôlée. Là, le problème se pose. C'est pourquoi, sans doute, Sade invente sans cesse des règles. Peut-être en souvenir d'un univers conventuel ou monastique qui est tellement important au moment où il écrit, mais aussi parce qu'il faut que des individus entre eux, un groupe, voire une communauté, voire une société entière, arrivent à tenir. Et avec Sade, il y a éventuellement coercition, il y a en tout cas nombre de règles contraignantes, et puis, il y a une curiosité pour le monde tout à fait extraordinaire. Alors, je disais, pour la nature humaine, et ce qui, je pense, a tellement dérangé chez Sade, outre les scènes de débauche, d'orgie, etc., bon, très bien, je veux pas les éliminer, mais c'est pas le seul intérêt. Et d'ailleurs, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, à vrai dire. C'est que, chez Sade, il y a une curiosité pour le monde qui est rare à son époque, que je ne trouve que chez les philosophes des Lumières, et Diderot en particulier. Il a eu les mêmes lectures, d'ailleurs. Il avait lu Cook, il avait lu Bougainville, il avait lu, c'est une de ses grandes sources, un certain Démenier, qui compare les mœurs et coutumes des différents peuples. Et ce qui est remarquable chez Sade, c'est qu'il n'y a déjà pas de hiérarchie. Il n'y a pas une once non plus de jugement. Oui. Tout est possible. Il suffit que les gens soient d'accord pour vivre la chose ensemble. Il décrit des formes de pouvoir. Il emmène des personnages dans le sud de l'Afrique ou ensuite dans l'océan Pacifique. Alors là, c'est tout à fait passionnant et c'est un auteur, je peux pas dire inédit, il y a des gens qui ont lu évidemment, mais surprenant.
En tout cas, si vous avez écrit ce livre, je vous cite Gérard Massé, c'est parce que vous étouffez dans l'air ambiant, à cause du retour d'un ordre moral qui s'exprime comme toujours au nom du bien. Les tartufferies ne meurent pas, mais elles sont plus ou moins actives. Or, nous assistons au retour de la bigoterie, de la superstition, pire encore, de la condamnation pour blasphème, de la spiritualité vague à la guerre sainte, les religions reprennent du poil de la bête, et la laïcité est vécue comme intolérante, grâce à un retournement imprévisible, du moins en France. Merci infiniment, Gérard Massé, pour tous vos textes et aussi pour ce dernier qui paraît et qui est d'une grande salubrité, d'une grande joie, qui s'intitule « Et je vous offre le néant » aux éditions Gallimard.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know. 'Cause everybody wants something from me now.
Avec cette belle voix, cette voix de Billie Eilish, que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique. Merci à Élodie Royer, Adrien Azelli, Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal, Mishka, nous allons nous retrouver. J'ai beaucoup dansé hier, mais il fallait être en super forme pour vous suivre dans vos musiques
vous
heavy metal
non,
ce soir.
Bah c'était juste perturbé.
C'était une petite mise en jambe.
Mais
quoi.
Vous êtes tout le temps en forme, alors je vous ai jamais vu.
Non,
bah
là, il fallait être en super forme. Bon, et ce soir
bah ce soir, non, vous allez un peu redescendre,
ah
mais,
bon,
mais agréablement.
C'est du slow.
Voilà, exactement.
C'est de la slow musique. À tout à l'heure, Mishka.
À tout à l'heure.